après avoir rendu hommage à l'enfant Jésus, les rois mages repartent sans passer par Jérusalem et ils rentrent chez eux par un autre chemin, nous dit la Bible. Mais où donc ont-ils passé? Ce fut Melchior qui arriva le premier chez lui. Sitôt rentré, il fit chercher son intendant et lui dit « Convoquez une grande fête, invitez tout le village, toute la région, tous, les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, les enfants, je veux que tous participent à cette fête. Préparez la viande, les grains, les légumes, les fruits et les pâtisseries. Ne lésinez pas sur les quantités, je veux qu'il y ait abondance et joie pour tous. » L'intendant lui dit, « Mais Melchior, nos caisses sont presque vides, vous le savez, la sécheresse, les mauvaises récoltes, nous avons dû acheter de nouvelles tentes, et puis surtout ce voyage à Bethléem qui nous a coûté une somme imprévisible. Ça ne fait rien, lui répond Melchior. Je veux raconter à tout le village mon voyage et leur dire la nouveauté de ce roi. L'intendant a encore essayé de protester. Il a proposé qu'on limite la dépense en choisissant les invités, en calculant au plus juste les quantités ou en renonçant aux musiciens. En vain, Melchior n'en démordait pas. Dans 3 jours, à la tombée de la nuit, la fête aura lieu et je la veux généreuse. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Ce fut le branle-bas de combat dans toute la région. Les bouchers se mirent au travail, les pâtissiers aussi, les tam-tams résonnaient nuit et jour. Les femmes préparaient leurs plus belles robes, les enfants étaient obligés de se laver, et les hommes allaient tous chez le barbier. Puis enfin, ce fut le grand jour. Le soleil était encore bien haut lorsque les premiers convives arrivaient. Melchior tenait à les accueillir tous personnellement. Il en venait de tous les coins et très rapidement la place était remplie d'une animation pas habituelle. Ça discutait, les enfants couraient, les magiciens faisaient leurs démonstrations. Là, on servait les boissons, du thé, du jus de fruits, du vin de palmier. Là, les musiciens jouaient de leurs flûtes et leurs tambourins. Un peu à l'écart, de grands brasiers avec des moutons qui rôtissaient. Une agréable odeur envahissait la place. À l'apparition de la première étoile, Melchior fit résonner les tambourins. C'était le signal du repas. Un immense buffet était disposé et chacun pouvait se servir de ce qui lui faisait plaisir. De la viande, des crudités, des fruits et naturellement beaucoup de pâtisseries. Un régal. Pendant un certain temps, on n'entendait plus rien. La nuit était maintenant tombée. Le ciel était tout étoilé. Les gens avaient bien mangé et ils discutaient tout tranquillement les uns avec les autres. Un feu avait été allumé au centre de la fête. Alors Melchior se leva, demanda le silence et dit « Vous êtes sans doute étonnés d'être invités à cette fête, mais ce que j'ai à vous dire est si important que j'ai tenu à ce que vous soyez tous là. Il y a quelque temps, comme vous le savez, j'ai suivi une étoile plus brillante que les autres. Elle m'a conduit à Bethléem, auprès d'un enfant, un roi. En fait, ce que j'ai vu était plus qu'un roi, ou plutôt autre chose. La maison était petite, les parents étaient pauvres comme la plupart des gens parmi nous. Et c'est là que l'étoile s'est arrêtée au-dessus de la maison. À l'intérieur, ça continuait de briller. Une lumière si chaleureuse remplissait de joie et de bonheur tous ceux qui étaient là. L'enfant lui-même brillait d'une lumière qu'il avait à l'intérieur de lui, comme une étoile. Je n'avais jamais vu ça. Puis Melchior regarda le ciel, il montra les étoiles et il continuait. Comme vous le savez, les anciens disent que les dieux habitent le ciel. Ils sont dans les étoiles d'où ils tirent les ficelles de nos vies. Alors en voyant cet enfant dans cette maison, j'ai eu le sentiment qu'une étoile était descendue sur terre et que c'était Dieu lui-même qui était venu habiter parmi nous et que de cet enfant, il nous disait toute sa tendresse. C'était le silence absolu sur la place. On n'entendait plus que le feu et Melchior qui brillait lui aussi et qui souriait. Il ajouta, « Vous comprenez, à présent que je tiens à partager avec vous ma joie et ma profonde tendresse. Et maintenant, réjouissons-nous et que la fête continue. » Balthazar avait un chemin beaucoup plus long à faire. Traverser le désert de la Syrie, puis la Perse, continuer vers l'est à travers des montagnes et des régions pas très sûres. Il faut bien le dire, il était content d'avoir un bon chameau qui ne rouspétait pas et qui le menait d'un pas régulier en direction de sa maison. Il était là sur son chameau, se laissait balancer par le rythme des pas, il réfléchissait à la vie. Ses pensées allaient et venaient, bercées par les mouvements réguliers de l'animal. L'étoile, Bethléem, l'enfant, la maison, le chant et le riz. Il se réjouissait de retrouver sa maison et ses chants. Et voici, tandis qu'il se balançait sur le dos du chameau, il s'assoupit et fit un rêve. Il voyait sa maison et les champs de riz et les paysans courbés dans les champs, des hommes, des femmes surtout, et même des enfants. Misérables, mal vêtus, il les voyait travailler durement, tant de corps fatigués et éprouvés par de durs labeurs. Et puis, tout à coup, au milieu de ces paysages et de ces paysans, il vit un visage d'enfant qui le regardait. Il le reconnut. C'était l'enfant de Bethléem. C'était lui. Il était dans ses champs de riz. Il le voyait parmi ses gens courbés. Mais que faisait-il là? Il criait, il appelait, il voulait lui dire quelque chose. Il était tout brillant, comme à Bethléem. Balthazar se réveilla en sursaut. C'était son chameau qui s'était encoublé sur une pierre. Peu à peu, il reprit ses esprits. Il revoit cette image de rizière, cet enfant qui le regarde et qui l'appelle. Vous savez, à cette époque, quand on faisait un rêve, on pensait toujours qu'il voulait dire quelque chose. Souvent, c'était une prophétie. Parfois, le rêve annonçait un malheur ou aussi un heureux événement. C'est dire que notre pauvre Balthazar voulait absolument trouver la clé de son rêve. Que faisait-il dans cette rizière? Est-ce qu'il veut me dire? Il était mal à l'aise. Il ne comprenait pas pourquoi cet enfant de ce roi était là avec ses paysans. Heureusement, le voyage dure longtemps, se disait-il. Ça me donnerait temps de réfléchir à tout cela. Peu à peu, il s'est rendu compte que l'enfant l'intéressait, que les champs du riz aussi, et que les femmes et les hommes qui travaillaient l'intéressaient aussi. Il se disait, si l'enfant va dans le champ de riz, moi aussi je veux y aller. Je veux aussi faire ce travail, rencontrer les femmes, les hommes, les enfants qui cultivent les champs et se fatiguent. Si ce sont les amis de cet enfant, ce sont aussi mes amis. Je veux les connaître, être là où il est lui aussi. Et il se souvient alors à quel point les riches méprisent les paysans, et lui aussi. Il pense à sa richesse et à leur misère, et il voit que cet enfant est présent parmi eux. Alors il fait ce vœu. Si je rentre sain et sauf, si je retrouve ma maison, je m'engage à moi aussi à aller dans les champs, vers ces gens, toucher de mes mains le riz, l'eau, la boue, sentir la labeur et la douleur. Je fais ce vœu de ne pas rester dans mon palais, mais aller là où tu es, toi l'enfant, et te rencontrer. Gaspard était revenu complètement détraqué de son voyage. À cause de la chaleur, du soleil, de l'eau, ou suite au mal de mer qu'il avait au retour, Gaspard avait perdu du poids. Il n'arrivait à retrouver ni le sommeil, ni l'appétit. Mais son humeur aussi était assombrie par son voyage. C'est ce qui inquiétait le plus sa femme, qui n'avait pas l'habitude de voir son homme ainsi. « Il rumine quelque chose, » disait-elle. « Mais quoi ? » Elle voulait savoir, essayait de le questionner, mais plus elle en parlait, plus il s'enfonçait dans son mutisme. Tout l'entourage de Gaspard ne comprenait pas non plus ce qu'il se passait. Lui qui d'habitude était si jovial, si gai, bavard et entreprenant, voilà qui passait des journées entières enfermé dans sa chambre à méditer, en ne prêtant aucune attention aux signes d'amitié qu'on lui faisait et en renvoyant de manière déterminée tous ceux qui essayaient de s'approcher de lui. Ils tinrent conseil pour essayer de le sortir de ses méditations sombres, mais rien ne semblait l'amuser, rien n'intéressait, et lorsqu'on lui demandait « qu'est-ce que tu veux ?», il dit « laissez-moi tranquille, je dois réfléchir ». Dès lors, il s'enferma dans sa chambre, n'accepta plus rien ni personne, et il fallait lui glisser sa nourriture et sa boisson à travers un guichet, et tous les 3 jours, il demanda de nouvelles bougies. Gaspard était tout retourné de ce qu'il avait vu en Palestine. L'étoile, la maison, cette nuit si sereine, et surtout l'enfant et la profonde paix. Présence divine, se disait-il. Et il était troublé, car il pensait aussi aux esprits et aux feux, aux fées, aux forces qui habitent les arbres et les marais, aux plantes et à leur pouvoir magique, et à toutes ces présences divines qui habitent les forêts. Au bout de quelques jours, il prit son meilleur cheval et se rendit dans la forêt pour dialoguer avec les esprits, expliqua-t-il à ceux qui s'étonnaient de le voir partir. Mais en fait, il se rendit chez Han, un ermite, qu'il estimait pour sa sagesse et ses dons de guérison. Il lui expliqua ses impressions de voyage et lui demanda « Les forces avec lesquelles tu nous soignes ont-elles quelque chose à faire avec cet enfant ? Le sacré peut-il avoir d'autres visages ?»« Le sacré a 1000 visages, lui répondit Anne. Il peut être dans une biche, dans un arbre, dans de l'eau. À qui sait s'ouvrir, il parle. Il parle des dieux et des hommes, de la vie et de la mort. Ton enfant aussi est un de ces visages du sacré, mais c'est ton secret. Et si tu as senti une présence divine en lui, garde cette présence. » Tout ceci n'est pas très sérieux, dit-il. Comment être sûr d'avoir une présence divine ? Qu'en penses-tu ? Tout cela sont des images, lui dit Anne. Elles disent chacune un aspect de la vie et de son lien avec les dieux. Les fêtes des saisons nous incitent à respecter la vie et ses cycles. D'autres esprits nous rappellent que les dieux tiennent notre destinée dans leurs mains. Ces images sont des signes et elles méritent qu'on les prenne au sérieux. Et l'enfant, demande Gaspard, si effectivement cette image est si présente en toi et qu'elle t'apporte paix et chaleur, alors elle est une pierre blanche que les dieux ont mise sur ta route. Il enchaîna, l'important c'est de voir derrière les apparences, de rechercher la véritable lumière là où l'homme rejoint le divin. Plus je réfléchis à la vie et à ses vérités, plus je simplifie. Gaspard était très réjoui des paroles de Anne. Il vit l'enfant et les forces de la forêt unis dans les mêmes sapins et les étoiles qui scintillaient, il les sentait avec eux et une paix profonde l'envahit. Le lendemain, il remercia Anne et se remit en chemin. Arrivé chez lui, il reprit ses activités sans rien expliquer. Il annonça simplement qu'il se sentait bien et qu'il avait découvert à quel point la vie était précieuse. Je crois même que les dieux s'intéressent à chacun de nous, précisa-t-il. C'est une grande joie pour tous. Et il leur laissa entendre que l'Esprit des dieux habitait aussi dans son cœur. On raconte qu'il y avait aussi un quatrième roi mage. Certains disent qu'il s'est perdu en route et qu'il n'est jamais arrivé à Bethléem. Moi, je crois que c'est au retour qu'il s'est perdu. Il a parcouru le monde pour retrouver l'enfant de l'étoile, mais en vain. Si vous le voyez, dites-lui de regarder la lumière qui brille dans les regards des enfants et qu'il verra là comme l'image du ciel qui se reflète sur la terre. Faites-lui un signe de paix, un de ces gestes simples qui peut faire de chacun de nous un mage pour ceux que nous rencontrons. Melchior a fait la fête sous les étoiles. Balthazar a découvert les visages. Gaspard se réjouit de la vie. Tous ont reçu la lumière qui transforme. Amen.